Radio Campus.
Depuis que l'homme possède la technologie, il a réalisé la plupart de ses désirs.
Une expérience simulée à la fois réelle et imaginaire.
On sent la solitude, le froid, la peur, et parfois même au fond, je ressens un peu d'espoir.
De l'espoir?
Radio Campus.
J'ai vérifié auprès du propriétaire. Il te la loue depuis 10 ans.
Nous ne possédons pas encore la technologie pour te la restituer entièrement. Après.
Contestation. Répression.
Ouais, bah, j'ai connu un mec de droite une fois, il avait 10 fois plus de clash.
À bâton rompu avec Hassan Kerim.
Bonsoir à toutes et tous, merci de nous écouter sur Radio Campus Orléans et Radio Campus Tours. C'est À bâton rompu, magazine d'info qui démarre. C'est tous les mardis hein, de 19 à 20h ici et chaque deuxième mardi du mois. Nous décryptons le mensuel Le Monde Diplomatique en cours. Pour parler du diplôme de novembre 2024, j'ai le plaisir d'accueillir Marie-Pierre. Bonsoir Marie-Pierre.
Bonsoir.
C'est la deuxième fois en fait. Hein.
Oui.
On se dit tu, hein, c'est l'habitude ici. C'est la deuxième fois que tu nous rejoins ici. Et c'est un plaisir de t'accueillir.
Mais merci.
Vraiment. Pierre, dont c'est le retour également. Bonsoir Pierre.
Bonsoir, moi ça fait deux fois que je ne suis pas venu, donc je découvre Marie-Pierre avec vous.
Steven est avec nous. Steven qui nous a rejoint récemment également. Hein.
Oui, bonsoir à toutes et à tous.
Bonsoir à toi, Victor est là.
Bonsoir à Sam, bonsoir à toutes et à tous.
Et le taulier, Henri. Bonsoir Henri.
Bonsoir à tous. Et oui, le taulier qui est capable de témoigner que depuis fort longtemps, ce diplôme du mois de novembre est aussi riche que les précédents.
Tout à fait, tout à fait, absolument.
Peut-être un peu moins riche que celui du mois prochain, mais ça on
certainement,
verra.
Certainement, certainement. En tout cas, il a un dossier, celui-ci, qui porte sur le Proche-Orient.
Un dossier qui porte sur le Proche-Orient. Donc ce diplôme du mois de novembre, évidemment, qui est paru et qui a été écrit avant les résultats des élections américaines.
Tout à fait.
C'est très très intéressant de lire ces articles qui ont donc été écrits avant la victoire, on a du mal à le dire, mais de Donald Trump.
Je fais donc immédiatement mon mea culpa sur l'émission du mois dernier où j'étais sûr, comme plein de gens, que Kamala Harris allait gagner.
Ouais.
Pauvre peuple américain. J'espère que ça ne nous arrivera pas ici. Hein.
Oui, et si je dis ça, c'est parce que, évidemment, cette élection-là de Donald Trump a des conséquences sur ce conflit israélo-palestinien, qui d'ailleurs va jusqu'à Beyrouth et ne se contente pas de ces deux parties. Et ce dossier donc, du diplôme est extrêmement intéressant à lire parce que, comme je viens de le dire à l'instant, phénomène aggravant avec l'élection de Donald Trump qui va encore plus soutenir Israël. Quoique, dans ce dossier, l'un des journalistes qui intervient précise que Biden a fait des remontrances à Israël, mais plus, on va dire, superficielles. Et que finalement, l'aide des États-Unis a toujours été massive pour ce qui concerne Israël. Et donc, on aurait pu penser, ce dossier débute par un article de Thomas Vescovi. On aurait pu penser quel avenir pour les Palestiniens, c'est la question qu'il se pose. Et avec l'élimination de Aya Sinwar, et également de responsables du Hezbollah de l'autre côté, du côté libanais, eh bien on pouvait penser que la guerre allait peut-être, et que peut-être il était temps de discuter pour faire la paix. Mais au contraire, ça n'a fait qu'accélérer la volonté de Netanyahou d'utiliser la force. Et il n'est pas prêt à négocier, même avec la pression d'une certaine partie de son opinion publique, puisque quand même il y a encore beaucoup d'otages. Il a une pression de la société israélienne, mais il n'en tient pas compte. Donc finalement, lui, il se sert de cette guerre, on l'avait déjà dit précédemment, pour se maintenir au pouvoir. Et il entend rester en guerre, notamment contre le Hamas, jusqu'à la défaite totale du Hamas. Et tout le monde sait bien qu'il ne pourra pas, évidemment, éliminer tous les supporters, si on peut dire ça comme ça, du Hamas. Donc c'est une politique répressive à outrance qui lui permet de se maintenir, comme je le disais, au pouvoir et qui renforce également l'extrême droite israélienne qui est au soutien de cette politique. Donc, de l'autre côté, côté palestinien, ben, c'est un peu la cata. Évidemment, le Hamas est affaibli, mais les différents mouvements palestiniens ont beaucoup de dissensions et finalement, c'est tout à fait préjudiciable à leur cause. Mahmoud Abbas, par exemple, le président de l'autorité palestinienne, eh ben, t'es un fantoche.
Quelqu'un des nouvelles ou pas?
Je sais pas. Est-il encore vivant?
Certainement.
Mais... Voilà. Et donc, c'est très inquiétant, évidemment, pour la cause palestinienne. Et donc, il y a un article qui suit de Akram Belkaïd, qui est vraiment un spécialiste pour le diplôme de cette région du monde, et qui va un peu dans le même sens, qui dit que malgré les destructions causées par les bombardements, presque incessants, la quasi-totalité des États arabes ne portent pas au secours, c'est ce qui est intéressant dans cet article d'Akram Belkaïd, ne portent pas secours pour autant aux Libanais et aux Palestiniens. C'est-à-dire que les Émirats Arabes Unis, par exemple, eux, ils accordent une aide très importante à Gaza, une aide humanitaire, mais en même temps, ils maintiennent leurs relations avec Tel Aviv. Et donc, comme on dit, l'idylle résiste à l'intensité dévastatrice des frappes israéliennes et aux pires massacres à Gaza et à Beyrouth. L'Arabie Saoudite, elle a un peu plus de mal. Elle soutient à demi-mot, on va dire, Israël, parce que c'est un pays plus peuplé, évidemment, avec de 36 millions d'habitants. Ah, et la majorité des citoyens de ce pays soutiennent la cause palestinienne. Mais néanmoins, l'Arabie Saoudite, finalement, est plutôt satisfaite de cet affaiblissement du Hamas et du Hezbollah.
Il semble qu'il aurait un petit peu élevé la voix, notre ami MBS, hier, lors d'un sommet.
Oui, c'est-à-dire que si
fait, le... Attention Israël, on n'est pas content.
Oui, voilà. Voilà, et donc ils ont eu très très peur, parce que ça les arrange un petit peu, ils vont pas le dire ça, mais que l'affaiblissement donc par l'intermédiaire du Hamas affaibli et du Hezbollah affaibli, cela affaiblit aussi le mouvement des frères musulmans et les milices chiites qui sont alliés de l'Iran. Donc tout ça fait un peu leurs affaires. Ils aimeraient néanmoins, c'est peut-être pour ça qu'il a élevé la voix, enfin tout doucement, ils aimeraient quand même que Israël n'aille pas trop loin. Et qu'on en reste là pour éviter un embrasement, évidemment, encore plus énorme dans cette partie du monde. L'Égypte, de son côté, est très inquiète. Eux aussi, ils ont du mal à élever la voix, à ce qu'on les entende beaucoup, puisque eux, ils se disent que si Gaza est entièrement colonisé par Israël, eh bien, tous les réfugiés palestiniens vont se retrouver repoussés par la force des choses, expulsés dans le Sinaï, et ils n'ont pas envie de ça. Donc, dans ce dossier du diplôme, c'est vraiment très intéressant. Il y a aussi, très intéressant à lire ce dossier, un article de Gilbert Achkar, Le triomphe sanglant de Benjamin Netanyahou. C'est-à-dire que, finalement, il retrouve de la splendeur dans son pouvoir, en quelque sorte, en étant de plus en plus guerrier et assassin, en fait. Et donc, même dans son camp, certains voudraient quand même peut-être que penser à lever le pied, si on ose dire, au niveau des attaques. Et d'ailleurs, il vient de remercier son ministre de la Défense. Comme ça, ça lui fait un opposant de moins, puisque c'était un de ses principaux opposants au Likoud, dans leur parti. Donc, finalement, Netanyahou est tout content qu'on le laisse tranquille et que ce n'est pas Donald Trump qui va venir et le contrarier. Et Gilbert Achkar, d'ailleurs, dit que, pour Netanyahou, tout va bien. Il rappelle dans son article, le journaliste rappelle dans son article, qu'effectivement, ça n'allait pas très bien entre Obama et Netanyahou. Obama, lui, a été parvenu à un accord sur le nucléaire iranien, alors que Netanyahou, lui, sa principale idée, c'est d'aller taper sur la tête de l'Iran. Alors, l'Iran qui a évidemment, qui a une activité nucléaire bien connue, mais donc... Il se retrouve, l'Iran a du mal évidemment à trop se montrer puisqu'ils n'ont pas envie d'enflammer le conflit, de se retrouver à devoir affronter et Israël soutenu par les USA, soutenu par les monarchies du Golfe. D'un autre côté, ils n'ont pas un armement suffisant pour détruire, parce que c'est ça l'objectif de Netanyahou, détruire toute installation nucléaire en Iran. Mais alors après, c'est des techniques qui font froid dans le dos. Et ils n'ont pas des bombes suffisamment importantes pour atteindre toutes les installations nucléaires, dont les plus sensibles sont souterraines. Voilà, pour les spécialistes. Alors, Gilbert Achkar a fini son article en disant que désormais, la balle est dans le camp américain, la balle ou même la bombe est dans le camp américain. Et depuis quelques jours, donc avant même que cet article soit écrit, on sait que la balle est dans les mains de Trump. Et ce n'est pas ce n'est que pour renforcer notre inquiétude. Pardon.
Oh, penses-tu, il a dit qu'il allait régler ça en 24 heures, on attend le 20 janvier, avec impatience, mais une impatience, vous ne savez pas.
Oui. Alors, comme nous sommes nombreux et avec plaisir aujourd'hui, je ne vais pas être trop long. Il y a plusieurs articles dans ce diplo extrêmement intéressants, je vais les citer, notamment sur le féminicide.
Oui.
Féminicide, dire le crime. Il y a deux articles de Lorraine Descartes qui sont vraiment très intéressants à lire pour voir l'évolution des législations, et notamment, en l'occurrence, de la législation en Belgique, qui est vraiment la plus à la pointe pour lutter contre ce fléau. Et donc, un dossier, plusieurs articles donc, à lire extrêmement intéressants. Sur en amont aussi des élections américaines, hein, puisqu'encore une fois, le diplo a été écrit avant le résultat des élections. Et ça explique un petit peu, souvent d'ailleurs dans le diplo, il y a quand même des articles prémonitoires. Il y a des articles donc, en amont des élections américaines, notamment un article de Rick Fantasia, « Le retour du travailleur sur la scène politique américaine oui. ». Extrêmement intéressant. Tu l'as lu, Pierre. Tu t'en souviens un peu? Tu veux deux mots? Il s'en souvient pas. Il s'en souvient pas. Donc, dès que Pierre aura... Les souvenirs de Pierre auront remonté à la surface, nous pourrons lui demander...
cet article explique bien ce qui s'est passé lors du scrutin. C'est que le Parti démocrate a un peu oublié les ouvriers... Et que Trump en a parlé, il en a parlé, mais on sait bien qu'il ne va pas faire grand-chose, ce milliardaire entouré de milliardaires, pour cette classe ouvrière américaine. Mais de bonne foi, des gens sont allés voter pour lui.
Et malgré tout, ils sont allés voter pour lui, et alors qu'à ce niveau-là, le bilan Biden est plutôt bon.
Est plutôt bon.
On dit d'ailleurs que ça a été dans ce domaine-là, l'un des présidents les plus favorables depuis Roosevelt.
Clairement.
Oui, puisqu'il a eu une politique de réindustrialisation.
C'est ça.
Il a fait bloquer les questions tarifaires, etc., qui du coup vont être remis sur la table avec Trump, ce qui va sans doute faire beaucoup de mal à l'économie américaine.
Alors certainement.
Et oui, comme tu le disais à juste titre Hassan à l'instant, Trump, c'est ce qui l'intéresse, c'est les grandes entreprises gens qui les dirigent. D'ailleurs, il y a qu'à voir avec son soutien avec Elon Musk quand même. Et d'ailleurs, Donald Trump a loué les qualités de dégraisseur hors pair
Elon
Musk.
Oui.
C'est-à-dire que quand il s'agit de taper dans les effectifs, mais bon, les Américains ont voté pour lui.
J'espère qu'ils souffriront pas trop, mais j'y crois pas une seconde. Il va casser ce pays et peut-être une partie du monde, ce monsieur.
Oui, et puis c'est ceux qui ont bien fait de passer à la caisse avant ce résultat d'élection, c'est aussi un autre article de Rick Fantasia, c'est une saison de grève et de victoire. Parce qu'aux États-Unis, finalement, dès qu'on est syndicaliste, on est communiste, donc on doit être cloué au pilori. Eh bien non, au contraire, il y a plusieurs mouvements de grève qui ont obtenu de gain de cause, notamment au niveau des dockers, au niveau des employés de Boeing. Boeing qui voulait laisser pourrir la situation en attendant que les gens s'essoufflent. Mais finalement, comme ils sont confrontés à la fois par ces grèves, ils ont quand même eu 33 000 ouvriers qui étaient en grève, et par des soucis de fiabilité de leurs avions, eh bien, ils ont accepté des revalorisations salariales. Et dans le même domaine de l'hôtellerie. Avec Donald Trump aux commandes, je pense que ça va être plus difficile pour les mouvements syndicaux pour obtenir gain de cause. Et donc, voilà quelques articles que je voulais citer. Mais encore une fois, je ne vais pas être trop long puisque nous avons plusieurs personnes qui piaffent d'impatience, n'est-ce pas, Pierre ?
Absolument. Nous allons commencer tout à l'heure avec Marie-Pierre, hein, qui parlera d'un très bel article. Je crois que c'est le premier que j'ai lu dans le diplôme. C'est le saccage des sociétés de l'ancien bloc de l'Est. Hein, en fait, là, cette année, les 30 ans, hein, de la fin du mur de Berlin. Et tout le monde pensait que ça serait le bonheur au coin de la rue, c'est ce qu'il disait. Et ben, l'article en parle, on en parle un peu après, un peu de la musique que tu nous as amené.
Une dame qui respire la joie de vivre, il en faut. Hein. C'est Angélique Kidjo qui avait repris un célèbre morceau des Talking Heads.
Elle était à Orléans mi-octobre et elle a commencé son concert avec Once in a Lifetime. Qu'on vous propose pour démarrer cette émission, c'est Abattoir Rompu jusqu'à 20h. Living in a shotgun shack, and you may find yourself in another part of the world, and you may find yourself behind the wheel of a large automobile, and you may find yourself in a beautiful house with a beautiful wife, and you may ask yourself, well, how did I get here? And you may ask yourself, where is that large automobile? And you may tell yourself, this is not my beautiful house. And you may tell yourself, this is not my beautiful wife. Letting the days go by. Letting the days go by. Into the blue again. Once in a lifetime. Dans une interview, Angélique Kidjo disait que c'est la première chanson qu'elle entend à la radio quand elle arrive en France, Once in a Lifetime, qu'elle reprend maintenant, elle reprend en public, sur un album. Un rappel, c'est en 1980 que c'est sorti par les Talking Heads. C'est un album expérimental qui est superbe, qui est toujours très écoutable. Il n'y a pas longtemps, je l'écoutais encore avec plaisir. Running in Light, ça s'appelle. Et cette reprise est aussi tout à fait magique. À bâton rompu, la suite. Si je retrouve ma voix, ça y est, je la retrouve. À bâton rompu, je disais donc, la suite tout de suite.
À bâton rompu avec Hassan Kerim.
Et nous allons donc parler de cet très bel article, Marie-Pierre, avec, je disais, hein, sur la volonté, enfin, le rêve de la jeunesse est-allemande en 1989, quand le mur est cassé, et de se dire, et on leur a dit, vous allez avoir le bonheur, parce qu'à l'Ouest, il n'y a que du bonheur, il y a des réformes qui sont faites, mais on est là, 30 ans après. Il y a 30 ans, l'autre grande dépression, c'était un article de Kristen Godsey.
Oui, donc cet article dresse le portrait de 30 années qui ont été en fait une grande déception par rapport aux espoirs qui ont été soulevés à ce moment-là. Il faut se rappeler des craintes qu'on avait. Et peu de temps avant, il y avait eu les chars sur la place Tiananmen. Quand on voyait les manifestations massives, en particulier en Allemagne de l'Est, et les gens qui prenaient d'assaut leur ambassade en République tchèque, enfin Tchécoslovaquie à l'époque, on se demandait comment l'URSS allait réussir, allait réagir, quelle était la position de Gorbatchev. Et à ce moment-là, je pense que le gouvernement d'Allemagne de l'Est, en particulier, je parle surtout de l'Allemagne de l'Est, parce que oui, c'est par cette entrée que je connais cette histoire, attendait la visite de Gorbatchev et attendait aussi un soutien militaire pour maintenir le pouvoir en place. Et Gorbatchev a dit « malheur à ceux que l'histoire condamne et qui arrivent trop tard ».
Tout à fait.
Voilà. Donc la pression populaire a été extrêmement forte et le mur de Berlin s'est ouvert, c'est un symbole, mais il y a eu en même temps, dans cette année 89, l'ouverture pour la Hongrie d'abord, et pour les différents pays satellites petit à petit, jusqu'à la Roumanie. Là, ça a été plus sanglant et plus difficile. Donc, en 89, pour ce que je connais des Allemands de l'Est, ils disaient « Wir sind das Volk », c'est nous qui sommes le peuple.
Nous sommes le peuple.
Ça, c'était par rapport à ce que disait le SED, le Parti Socialiste Unifié de l'époque, qui en fait était le Parti Communiste, qui représentait le peuple. Ça, c'était le discours officiel. Et donc, les manifestants dans la rue ont dit « c'est nous le peuple ». Donc ça, c'était un premier pas, et je pense que ça s'est produit un peu comme ça dans les autres pays satellites de l'URSS. C'était pas forcément au départ... On veut plus du tout du régime communiste ou socialiste. On veut une liberté, liberté de circulation,
absolument.
Liberté de parole, de pensée, d'opinion, bien sûr. Et puis accéder quand même aussi à une société de consommation. Il ne faut pas oublier qu'à cette époque-là, vraiment, on n'était pas dans une société de consommation dans les pays satellites. Il y avait le minimum, ce qu'il faut pour vivre. Il y avait une sécurité sociale, il y avait une sécurité de l'emploi, ce qui était très important. Des constructions massives de logements de type ce qu'on appelle l'architecture stalinienne et qui existait encore après Staline. Et puis peu de rénovation des villes, peu de variété, une excellente politique culturelle, ça c'est vrai, avec un accès réel pour tout le monde au concert, au théâtre. Et puis
l'excellentissime festival alors, du livre. C'est à Leipzig. J'ai eu l'occasion d'y aller à l'époque.
Oui, tout à fait.
Leipzig. Et pourtant, je viens d'un pays colonisé par les Allemands.
C'est-à-dire qu'il a oublié maintenant, il va
ça.
À Brive.
Voilà.
Mais toute cette sécurité, ce calme, en tout cas ce calme apparent, était sous la férule d'un État totalitaire qui contrôlait ses citoyens systématiquement avec un système de délation réciproque, mutuelle, c'est-à-dire qu'au sein d'une même famille, les gens pouvaient s'espionner et être amenés par chantage à faire des rapports suspicieux, établir des filiations, des conséquences qui n'avaient aucun fondement. Ça s'est découvert ensuite lorsque les archives de la Stasi ont été ouvertes et que les gens ont pu aller voir ce qui se passait. Okay. Et donc, c'est ces deux côtés, une sécurité d'un côté et puis une oppression, Un désir aussi de la jeunesse, un désir d'accéder à des concerts. Ils allaient près du mur de Berlin pour écouter les concerts qui avaient lieu de l'autre côté, parce qu'on pouvait tout entendre. Ça explique ce ras-le-bol. Et puis, le fait que la société de consommation n'était pas là. Pour avoir une voiture, une Trabant, il fallait attendre. Il fallait commander sa Trabant quand on avait 10 ans, si on voulait l'avoir à 30 ans. C'était à peu près ça. Donc, une sorte de frustration. Et donc une pression énorme des populations pour obtenir une libre circulation, la fin de la surveillance, liberté d'opinion et fin de l'oppression. Au départ, donc je disais, ça n'était pas forcément pour supprimer l'État tel qu'il était, mais un désir de liberté et d'ouverture. Et puis, de Wir sind das Volk, on est arrivé petit à petit vers le mois de février-mars 90, donc quelques mois après, à Wir sind ein Volk. C'est nous qui sommes un peuple, un seul peuple. Et là, il faut le comprendre, dans l'OSLS, on est un seul peuple, le peuple allemand. Et ça change absolument tout.
Oui, bien sûr.
Il faut dire aussi qu'à ce moment-là, Helmut Kohl, lui, avait, dès l'ouverture du mur de Berlin, saisi l'histoire en main en parlant tout de suite de réunification. Je me souviens qu'à cette époque-là, les Allemands de l'Ouest n'étaient pas forcément heureux, enthousiastes. Ça paraissait très difficile à réaliser. Il y avait une telle différence de mentalité, une telle différence économique entre les deux États que ce n'était pas si simple que ça. Et puis, il y avait l'opposition, je ne sais pas si vous vous souvenez, de François Mitterrand, par exemple, qui ne voulait pas du tout d'une Allemagne réunifiée. Ça a été un combat assez long. Et puis, des élections qui ont montré que les gens voulaient une réunification. Et petit à petit, un désir de société libérale et donc économiquement aussi libérale.
Voilà. Mais ça fait donc 30 ans, on a l'impression que c'est un siècle. Quand on voit maintenant le spectre politique en Allemagne avec l'AFD qui vient de cette partie de l'Allemagne, de l'Europe de l'Est, une extrême droite qui est peut-être même plus dangereuse que notre fameux Rassemblement National ici.
Qui est plus présente dans l'ex-Allemagne de l'Est.
Bien sûr, absolument.
Il y a eu donc des élections.
Qu'est-ce qui s'est passé
en Thuringe, en Saxe dans le Brandenburg également, et on a vu surgir l'AFD de jusqu'à 30% des voix en moyenne. Donc c'est quand même considérable. Et puis un effritement du Parti Socialiste, de la SPD, y compris aussi de la CDU. Une montée aussi d'un nouveau parti, le Bündnis Sarah Wagenknecht.
Oui, elle vient de l'extrême gauche.
Elle vient de Die Linke, c'est-à-dire les héritiers de l'ancien SED qui était devenu ensuite un parti socialiste. Qui a fait sécession par rapport à eux et qui propose une politique de gauche avec une alliance avec la classe moyenne les entrepreneurs, les entrepreneurs.
Les oligarques, Très bien. Et puis autre chose, on en aura fini, c'est quand on regarde, il y a à nouveau des documentaires qui ressortent sur cette période-là, c'est Erich Honecker, c'était le Premier ministre, le président même de la RDA, comment il était faible par rapport à tout ça. C'est-à-dire qu'il attendait, comme tu disais, la visite de Gorbatchev en se disant, il va prendre une décision, Gorbatchev.
C'était des chefs d'État, des hommes d'État, on ne va pas dire séniles, mais quand même, qui vivaient sur leur acquis d'anciens résistants. Résistants antifascistes. Donc il y avait toute l'aura de leur parcours politique antérieur, et je crois qu'ils s'étaient un petit peu assis là-dessus. Donc persuadés qu'ils avaient la parole définitive et souhaitée.
Merci à toi, Marie-Pierre.
C'est-à-dire que, je voulais juste ajouter que dans cet article, il est bien précisé que finalement, ça a été un électrochoc, mais ça manquait de thérapie derrière.
C'est ça.
C'est-à-dire que c'est ce qu'on ne sait pas. Ce qu'on ne sait pas, c'est que finalement, beaucoup d'Allemands de l'Est, si j'ai bien compris l'article, sont tombés, ont été plus pauvres après qu'avant.
C'est ça.
Mais ils se sont trouvés au chômage.
Sans emploi.
Et le chômage est encore beaucoup plus élevé dans les ex-pays d'Allemagne de l'Est que dans les Länder d'Allemagne de l'Ouest.
Mm-hmm. D'où l'AFD.
Donc ça explique cette exaspération et la montée de l'AFD, sans aucun doute.
Merci à toi encore une fois, Marie-Pierre.
À bâton rompu, 19h-20h sur Radio Campus Orléans.
Nous allons parler maintenant de du plastique. Oui. Au moment où s'ouvre une COP, vous savez, la conférence des parties, là, le machin où tout le monde dit « Oh, ben on est contre le réchauffement climatique. »
C'est ça.
Et puis on va prendre des doigts, voilà.
Il va faire ça en Azerbaïdjan.
Ben c'est ça, ça se passe en Azerbaïdjan, absolument. Le pays de la liberté, l'autre pays de la liberté. Et donc, voilà. Et on va parler de plastique avec toi, Pierre. Alors, le plastique, ça fait tellement d'années où on nous dit « Mais voilà, on va lutter contre le plastique, on va trouver des trucs, on va faire du recyclage. »
Exactement.
Le titre de l'article, c'est « Plastique, l'escroquerie du recyclage ».
Exactement, voilà, l'histoire du recyclage. Alors, cette histoire prend racine il y a longtemps, c'était dans les années 60.
C'est ça.
Qui c'est qui a écrit cet article ?
Mohamed Larbi Bouguera.
D'accord, qui écrit bien, hein, c'est bien écrit son article. Bien sûr. Pardon ?
On lui dira.
Il commence par nous dire qu'au départ, quand même, le plastique, ça devait être... le matériau qui devait tout remplacer, le bois, le verre, le fer et tout ça. Il a même cité Raymond Queneau qui chantait les louanges. Il se passe quelque chose. Et en fait, assez rapidement, on s'est rendu compte que le plastique, y avait pas que des avantages, mais c'était assez toxique. Donc, dès les années 80, les industriels qui font du plastique proposent, c'est eux qui proposent d'inventer quelque chose qui va s'appeler le recyclage.
Oui.
En disant que ça va être la panacée parce qu'on va pouvoir recycler le plastique. Tout le monde, l'Europe, la France et tout le monde va plonger dans cette solution merveilleuse. Et puis on va se rendre compte petit à petit que ça ne marche pas comme ça. Alors est-ce que ça date... On va se poser des questions. Est-ce que c'est parce qu'on ne trie pas assez ? Est-ce que... Il cite deux usines, une en Allemagne, une en Hollande, qui vont fermer des usines qui font du recyclage et qui revendent le plastique. Et voilà, ça marche. Donc ça marche, mais ça marche pas. On invente des plastiques différents.
Et c'est ça.
Ils ont fait
ça à un moment.
Mais c'est à la marge aussi, ça marche pas. Alors on se demande ce qui se passe. En fait, c'est pour ça que c'est une arnaque. C'est qu'il le d'après cet article, on est d'accord. Il le savait depuis le départ. Ça ne peut pas marcher en fait. Ça ne peut pas marcher parce que sur tous les plastiques qui sont créés, il y en a deux apparemment qui sont recyclables et pas plus.
Pas plus. Et ils le savaient.
Et ils le savaient. En plus, ils sont recyclables une fois.
Et c'est ça.
Et quand ils sont recyclés une fois, ils deviennent encore plus toxiques. Ils le savaient au départ. C'est ça le scandale, évidemment. C'est pas qu'on découvre que c'est pas possible, c'est qu'on découvre que les gars, ils l'ont fait exprès. Alors, ils comptaient sur la crédulité des citoyens et sur la corruptibilité des gouvernements. Et puis, bon, avec des gens qui savent parler et qui sortent des arguments, on a pu tous croire que le recyclage du plastique, ça allait fonctionner. Et puis en fait, il pose la question de savoir qui c'est qui va nous sortir de là, qui c'est qui va finalement, parce qu'on a quand même des milliards, il y a 8 milliards, je crois, de tonnes de plastique qui ont été créées depuis les années en 60 ans. Il y en a 350 millions qui sortent tous les ans.
Ouais, c'est ça.
Et c'est en train de tuer le vivant, tout simplement. Ça, c'est aussi dans l'article. Donc, qui c'est qui va nous sortir de là ? Parce que
la mer.
Ouais, bah oui.
C'est ça que j'étais dans la mer.
le fameux continent de.
Oui, c'est ça, absolument.
Le septième continent là, qui est apparu. Ouais. Donc voilà. Donc il dévoile tout ça et dit que. En fait, on confond souvent le tri et le recyclage, en fait. C'est pas parce qu'on trie qu'on recycle.
Tout à fait. Et c'est très bel article qui est à la dernière page, hein, d'ailleurs. J'ai failli le louper. Et, vraiment, allez le dire. J'ai découvert des chiffres, hein, comme tu disais, 350 millions de tonnes de déchets plastiques chaque année.
Voilà.
Mais enfin, on va pas arriver. En plus.
Alors qu'on ne peut en recyclé que 10%, en fait.
C'est ça, mais c'est exactement ça.
Et ça, on le sait depuis le début.
Oui.
Alors, il y a une petite anecdote qui était assez connue, mais qui est assez sympa. C'est une Américaine qui a fait suivre son plastique, qui a mis une puce pour la suivre. Elle pensait que le plastique allait terminer dans une usine au dernier cri. Et en fait, elle se rend compte que ça finit dans une décharge.
Au Bangladesh ou...
ça finit dans une décharge à ciel ouvert.
Ouais,
donc,
pas très loin de chez elle, je crois.
Exactement.
Il me semblait.
Donc c'est vraiment 10% du plastique, c'est rien du tout. Quoi. Le reste, qu'est-ce qu'on en fait, quoi.
Bah ouais. Et si on terminait ça avec un bout de quelques notes d'une chanson pour nous donner du courage.
Le plastique. Bravo.
Bravo.
T'as pas lu l'article, toi.
J'ai cru que t'allais nous passer du plastique Bertrand.
Oui. j'aurais pu également. Nous partons maintenant vers l'Iran avec monsieur Victor, oui.
Oui.
Alors, avec un article hein, qui est aussi très, très intéressant sur ce cinéma iranien qui est un grand succès mondial, hein, qu'on aime ou on n'aime pas. Moi, il y a des trucs que j'aime vraiment pas. Mais ce cinéma qui a un tel succès à l'étranger, on se rend compte, hein, en lisant l'article, que ce cinéma reste tributaire quand même hein, du pouvoir.
Évidemment. Cet article, donc Le clair-obscur du cinéma iranien par Adrien Cluzet, qui est chercheur en relations internationales, ouvre sur le 25 mai 2024, où les graines du figuier sauvage de Mohamed Rosoutov, je m'excuse par avance pour les noms, je ne parle pas farsi.
Je pensais que tu avais des ascendances russes, toi.
Non.
Ah, tu m'aurais menti.
Non, écossais.
Non, mais je décale.
Obtient le prix spécial du jury au Festival de Cannes, alors même que son réalisateur est interdit de travailler dans son pays. Il a une peine de prison, d'ailleurs, qui pend à son truc. Si jamais il retourne dans son pays, il sera emprisonné. Et ça a remporté du coup le prix spécial du jury du Festival de Cannes. Mmh. On a eu plusieurs productions comme ça iraniennes qui ont percé ces dernières années. Il y a eu une séparation qui a été autorisée pour le coup par le régime iranien, qui est sortie en 2021, qui a ouvert la voie en fait à une nouvelle vague du cinéma iranien de façon assez originale. Il faut savoir en fait que le cinéma iranien est énormément soutenu par le ministère de la Culture et de l'Orientation Islamique,
c'est ça.
Le MCOI, dont on reparlera plusieurs fois, malgré les censures. Et en fait, pourquoi ? Pour en fait faire du soft power, c'est-à-dire que les produits culturels iraniens permettent d'assouvir une certaine forme de pouvoir vis-à-vis des pays, notamment du Moyen-Orient.
Tout à fait.
Parce que les deux plus grands producteurs de cinéma, du coup, c'est le Moyen-Orient, c'est l'Iran et l'Égypte. Et voilà, donc c'est deux pays qui se font une guerre culturelle un petit peu sur la question du cinéma. Et Roménie, d'ailleurs, voyait en le cinéma le meilleur moyen de pouvoir éduquer le peuple iranien à la révolution islamique.
Mais c'est clair, là, je crois que ce sont les premiers qu'il rencontre quand il rentre là de France. En 1980, il reçoit des intellectuels et les cinéastes en premier lieu. Il en fera pendre quelques-uns, mais au départ,
Un
bon sujet de film, c'est ça. Ben, il leur dit justement ça. Au départ, il y croit à mort.
En effet, dans les années 80, enfin dès 1980, on a la révolution culturelle islamique qui impose l'approbation des films au très strict ministère de la Culture et de l'Orientation islamique, le MCOI, qui censure tout acte indécent au regard de la morale islamique. Donc ça va être l'adultère, ça va être les femmes dévêtues, ça va être ce genre de choses. Voilà, ou bien évidemment... la critique directe du pouvoir politique.
Mais en numéro 1, je crois.
En
numéro 1 sur le tableau, ouais, je pense.
Voilà. Mais malgré tout, donc, dans le but de produire un cinéma qui est à vocation d'abord du peuple iranien.
Bien sûr.
Mais malgré tout, depuis une trentaine d'années, il y a une tendance à l'internationalisation des productions iraniennes, saluée par la critique et notamment par les populations occidentales à très fort capital culturel. Le capital culturel, c'est en gros votre capacité à pouvoir manipuler des éléments culturels pour en comprendre le sens, pour faire simple. Donc des personnes très diplômées, pour faire vraiment très simple, voilà, qui saluent l'authenticité, voire le caractère subversif de certaines de ses œuvres. Les exemples sont très nombreux, il y en a plein dans l'article, donc je ne vais pas forcément toutes les citer. Moi, ce que je retiens, c'est un film que j'avais vu en 2015 qui s'appelle Taxi Téhéran, de Yafar Panahi. Qui a été banni de son propre pays d'ailleurs et qui a tourné ce film en scred, enfin en, je sais pas comment dire avec un terme qui soit plus journalistique.
Oui, parce que scred, attends, bouge, on va chercher, on a deux minutes, en secret.
En secret, ouais, tout simplement.
Dans la clandestinité.
Dans la clandestinité, merci Steven. Voilà, donc ça raconte l'histoire donc, du réalisateur qui en gros va faire taxi.
Oui.
Pendant une journée à Téhéran, où du coup il emmène sa fille, il emmène un moment un type qui a un accident de voiture juste à côté, après il emmène deux femmes qui veulent retourner à une source pour libérer des poissons. Enfin, c'est vraiment très divers, ça couvre pas mal de gens de la société iranienne et on apprend plein de trucs ce truc.
Chef-d'œuvre, vraiment chef-d'œuvre.
Ah oui, oui,
il est un film magnifique.
Il est génial. Il y a le vendeur de films, il y a un moment, il y a sa fille qui monte dans le taxi. Et qui explique qu'elle doit faire un projet de cinéma. Et un truc qui m'avait marqué, c'était voilà, donc c'était un projet de cinéma du coup commandé par l'école, et il y avait un certain nombre de normes qui étaient à respecter, et notamment il ne devait pas y avoir de personnage positif, enfin présenté comme positif, qui devait porter la cravate. Alors moi, ça m'a surpris, etc. J'en ai parlé à mon père, parce que mon père a fait plusieurs voyages d'affaires en Iran, et il m'a dit « Ah non, non, tu ne portes jamais la cravate en Iran, parce que c'est le symbole du grand Satan américain. »
Absolument.
Et du coup, on ne peut pas avoir un personnage bon, enfin positif, un protagoniste, qui porte la cravate dans la réalisation de films, du coup, à l'école. Enfin, ça m'avait marqué. On peut citer aussi l'influence de Abbas
Kiarostami,
qui a fait de nombreux chefs-d'œuvre, pareil, je ne vais pas tous les citer. Et l'ensemble de ses œuvres reflète le cœur de la vie des habitants iraniens à travers des conflits politiques, sociaux et les tensions intergénérationnelles. Donc ça reste du très bon cinéma. Je vous conseille d'aller jeter un petit coup d'œil. Voilà, mais le MCO reste... comment dire,
c'est toujours l'agence
prudent, gouvernementale. On va dire prudent.
C'est l'agence gouvernementale.
Oui, c'est ça. C'est le ministère de la Culture et de l'Orientation islamique. Il reste toujours prudent par rapport au succès international de ces films, notamment depuis l'émergence des réseaux sociaux et des diverses contestations, des mouvements de contestation qu'on a suivis là, ces dernières années. La grogne de la jeunesse, voilà, la censure devient de plus en plus dure. Je me rappelle avoir vu un reportage aussi qui s'appelait L'effet papillon sur dictature tour, où ils partaient dans des pays, c'était assez intéressant comme principe, c'est qu'en fait ils partaient dans des pays dictatoriaux pour voir un peu comment les gens vivaient, etc. et tout.
Quelle idée.
Ah oui.
Quelle idée.
C'était sur YouTube, c'était plutôt intéressant, mais comme ça il y a.
Ce qui est inquiétant, c'est qu'ils ont de plus en plus de destinations possibles.
Ah oui. Oui. Bientôt les États-Unis.
Le panel est assez ouvert. Oui,
et en fait il y a un passage où du coup il va voir le ministère de la Culture justement pour parler de la censure des films, et il y a ce passage qui est absolument génial où en fait il montre des films américains hollywoodiens où en fait il rhabille les actrices numériquement, c'est-à-dire que plan par plan ils font de la colorisation numérique pour pouvoir justement pour pas que les actrices, enfin là c'était Keira Knightley, je sais plus dans quel film, ou pour qu'elles n'aient pas les épaules nues.
Ah oui, bah oui.
Et bien sûr, et ça ne consiste pas seulement à charcuter et à couper les scènes qui sont considérées comme étant trop érotiques ou ce genre de choses, mais ça consiste même à rhabiller des actrices numériquement dans des films. Enfin, ça m'avait assez marqué.
Mais ça se tient.
Mais ça se tient.
Selon eux, enfin, d'après leur...
Mais la répression est quand même de plus en plus dure. Selon Amnesty International, des centaines de créateurs et d'artistes sont encore emprisonnés, torturés, voire exécutés. Mais justement, à l'heure actuelle.
Très peu quand même par rapport aux autres catégories de la population. Il y a un copain qui me disait, qui est iranien, qui me disait, t'as vu, ils n'osent pas exécuter justement les cinéastes pour tout ce que tu as dit, mmh. et parce que ça représente quand même quelque chose, la culture de pendre un homme de culture, même pour les mollahs iraniens, c'est assez difficile. D'accord. Effectivement, il y en a beaucoup qui sont en prison, qui sont condamnés à mort, mais globalement, au bout de 10 ans, on les sort, quoi. Mais par contre, effectivement, il resserre un peu, là, depuis quelques temps. Tu parlais de Mohamed Rasoulov qui a eu le prix à Cannes, vous vous rappelez, mmh. qui n'a pas eu son avion. On ne sait même pas comment il a pu quitter le pays. Mais il est venu à Cannes quand même. Oui, oui. Il avait du retard à la cérémonie, mais ils lui ont mis des tas de problèmes. Et voilà, il n'a pas eu ses papiers à temps, parce que voilà, il veut montrer quand même qu'ils ont encore
du pouvoir
là-dessus, quoi. Oui,
c'est ça. Oui, ouais. Puis ils leur demandent, ils disent que c'est beau tous ces succès à Cannes ou ailleurs, ouais. mais ils leur demandent de faire des films qui font recette.
C'est ça.
Voilà,
c'est ça. Le clair-obscur du cinéma iranien, très 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 bel article à lire dans le Diplo de ce mois de novembre. On va finir avec toi, après un jingle.
À bâton rompu, avec Hassan Kerim.
Avec toi monsieur Steven.
Yes,
Mirata.
Voilà, on revient en France. on revient en France avec ce terme qui est apparu là il n'y a pas très longtemps, l'extrême centre. Au départ, je me disais, mais c'est bon, allez, arrêtez de faire de l'esprit, les gens. Mais en fait, ça a du sens, l'extrême centre.
Bah, ouais,
l'extrême centre.
Bah, c'est pour ça que j'ai choisi cet article, hein, parce que justement, on présente que trop peu, voire jamais, hein, le camp macroniste pour ce qu'il est, l'extrême centre. Mm. Et du coup,
c'est quoi?
Alors, c'est ce que justement tente de dépeindre un peu l'article qui s'appelle Le vrai visage de l'extrême centre par Alain Deneau. Mmh. Et en fait, dans l'article, le camp présidentiel est présenté comme pour ce qu'il est, pour ce qu'il est vraiment, un extrême. Mmh. Ce camp présidentiel qui aime à faire croire, à qui veut le croire encore aujourd'hui, hein, qu'il s'efforce de combattre les extrêmes. Hein, donc. Finalement, il a bien plus d'impointance avec l'extrême droite qui ne veut le faire croire.
C'est ce qu'il dit. Ouais.
Oui, c'est ça. En voulant se présenter comme le défenseur de la raison, Macron et ses sbires de l'extrême centre se présentent comme les garants de la responsabilité et de la raison. Et ainsi, ils condamnent invariablement au bannissement toute lecture politique contraire à leur idéologie. Hein. Et leur idéologie, bah, elle est bien connue. Un programme que l'article décrit comme un écocide tourné vers l'industrie meurtrière pour le système social. On est en plein dedans là, je trouve, actuellement, avec bah, justement la loi de finances qui est en train d'être votée, et justement l'idée de couper encore dans le budget de la Sécu. Mmh. L'article, il parle même du dégoût de Macron pour la question sociale. Mmh. Un programme qu'il présente comme une rupture avec l'axe de droite-gauche, hein, et qui par conséquence s'impose de manière autoritaire comme le seul programme légitime. Hein, c'est justement sur ce fondement-là que, pour lui, il n'a jamais perdu d'élection. Quoi. Mmh. À cas les législatives. L'extrême-centre, comme l'extrême-droite, partage une appétence particulière pour la violence. Si l'extrême-droite s'illustre par une violence identitaire, le camp des macronistes exerce en revanche une violence sociale. Macron méprise tout ce qu'il n'estime pas. Donc l'article, il fait une petite liste, mais moi, je crois qu'on peut résumer à ça. Il n'aime personne, sauf la bourgeoisie. Macron revient sur
simple,
voilà. faire des listes. L'article revient sur la violence déployée par Macron lors des mouvements de contestation. Hein. Il revient logiquement sur la question des gilets jaunes ou sur les soulèvements de la terre. Hein. Et le bilan ne laisse pas douter de la dureté du régime. L'article poursuit avec d'autres formes de violence, hein, notamment économiques. Macron, déjà sous Hollande, puis lors de ses 7 années de mandat, n'a eu de cesse d'asseoir la domination financière de la bourgeoisie par des abattements d'impôts, par la suppression de l'ISF, hein, on s'en souvient tous. Hein. Et le parallélisme de l'extrême droite et de l'extrême centre devient de plus en plus flagrant lorsque l'article décrypte les quelques mesures voulues par l'extrême droite que l'extrême centre a mis en place. On ne citera jamais assez, hein, la loi immigration de janvier 2024, hein, que notre ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, se voit déjà durcir au détriment de ce qu'on appelle l'état de droit. Hein. L'état de droit, d'ailleurs, l'extrême centre a montré son faible attachement vis-à-vis de cette notion en bafouant les institutions et les valeurs de la République quand celles-ci lui mettaient des bâtons dans les roues. On peut citer à ce titre-là les 49-3 à répétition, le fait de ne pas choisir un ministre, un premier ministre de la majorité parlementaire. Enfin, voilà, il y a plein d'exemples. Et tout ça est un peu cité dans l'article. Nous avons ici la description de deux extrêmes au service d'une même bourgeoisie. Une bourgeoisie prête à tout pour se maintenir au pouvoir. Ce qui tend à différencier les deux extrêmes, c'est la sympathie populaire qu'a gagné ces derniers temps l'extrême droite. Et donc l'article met en évidence ce que l'extrême centre fait de plus en plus, c'est-à-dire aller chercher cette adhésion populaire en n'hésitant pas à s'aligner sur les idées d'extrême droite. L'article nous invite à voir le camp de Macron pour ce qu'il est, c'est-à-dire un extrême qui ne dit pas son nom, mais un extrême. Un extrême au service de la classe bourgeoise, un extrême avec lequel l'extrême droite a de plus en plus d'accointance.
Un article signé par Alain Deneau. Alors Alain Deneau, il n'est pas journaliste, il est historien. Et il
cite pas mal de sources historiques. Absolument. Donc, il y a Pierre Serna, donc historien de la mémoire qu'on a eu pour la rédac pop, dont il reprend aussi quelques idées.
Et philosophe, il est québécois.
Mais
installé en France.
Pourquoi il n'y a pas que point de côté là.
Mais en tout cas, très intéressant, évidemment, c'est cet article que je vous disais.
Très d'actualité.
Oui, je l'ai entendu par des journalistes de gauche, à un moment, extrême centre, pour dire ce qu'était le.
Et oui, on veut toujours le parti. Qu'il y ait une extrême droite et une extrême gauche. Ouais. Effectivement. Il y a un extrême centre.
Ben oui.
Et l'extrême centre, clairement, c'est l'extrême intolérance.
Mais il explique très bien dans cet article-là. Vraiment, allez le lire.
Genre le printemps républicain, franc-tireur,
exactement,
un truc comme ça.
Vraiment. C'est ce camp de la raison qui a une conscience au-dessus de tout le monde et vraiment qui méprise en fait tout ce qui n'est pas d'accord en fait. Et donc tout ça n'a pas de raison d'exister étant donné qu'ils sont là.
Il existe donc un extrême centre. Merci à vous, les amis du monde diplomatique. C'est passé vite. On a 10 minutes. On peut discuter d'autres choses si vous voulez.
Peut-être je vais faire une recommandation parce que par rapport à cet article là sur l'extrême centre, on a une émission sur Blast qu'ils ont lancée là pour cette nouvelle saison.
Donc, Blast, c'est un média voilà,
alternatif,
vidéo,
ouais, oui, qui est sur YouTube notamment. Et ils ont fait une vidéo sur les démocraties illibérales.
Oui, bien sûr.
Et donc, je trouve que c'est plutôt intéressant de.
C'était Host Politique et Loumi, non ?
Non, c'est pas Loumi, c'est.
Maudi.
Maudi, exactement. et donc, je vous invite à aller voir cette vidéo parce qu'ils expliquent dans quoi est-ce qu'on est en train de basculer. Parce que oui, on n'est pas dans un régime autoritaire en France. Hein.
Non.
Voilà. Évidemment. Mais. Depuis que Macron est arrivé au pouvoir, il n'a eu de cesse de s'aborder tous les contre-pouvoirs, notamment les associations. Encore Bruno Retailleau qui veut s'attaquer aux associations présentes dans les centres de rétention. Le pouvoir législatif qui a été mis à mal, la légitimité des juges qui a eu de cesse d'être remise en cause. Donc, il y a pas mal de contre-pouvoirs qui aujourd'hui sont un peu mis à mal. Et donc, cette vidéo en parle très bien et nous explique que oui, on n'est pas dans un système autoritaire, mais on y avance dangereusement vers en étant dans ce qu'on peut appeler une démocratie illibérale.
Donc, sur Blast, on va aller regarder ça. Merci à vous encore une fois.
Oui, et puis il y a des films qui passent encore et qui sont très intéressants, qui traitent de ces domaines un peu comme, par exemple, le film L'histoire de Souleymane, qui est vraiment un film extrêmement intéressant.
On en a parlé la semaine dernière. C'était il y a deux semaines.
Il y a deux semaines.
Bon, j'étais pas là, mais tu es allé voir le film.
J'en avais parlé, effectivement.
Je l'ai vu aussi, et effectivement, ça pourrait être un documentaire. Ils n'ont même pas eu besoin de forcer le trait.
Bien sûr, parce qu'en plus, il joue son propre. Sa vie, en fait. Il est sans papier, ce jeune homme. Il est. J'ai appris qu'il avait été appelé pour d'autres films, mais il n'a pas envie de faire ça. Ben, il est mécanicien à Caen, je crois.
Lui, il est passionné de mécanique.
Il veut juste avoir des papiers pour faire vivre, quoi, vous voyez.
Il y a beaucoup de gens de l'extrême centre qui devraient voir ce film.
Mais bien sûr, évidemment.
Parce que c'est encore une fois, ils ont même pas amorcé le tableau et c'était inutile. Et on voit tout ce qu'il a à faire. Ouais. Et effectivement, à la fin du film, ce fameux entretien où il est avec une dame de l'OFPRA, qui est tout à fait digne d'ailleurs, mais qui lui raconte une histoire. Et le problème, c'est qu'ils racontent tous la même histoire. Mmh. Et elle lui dit non, mais je voudrais savoir la vérité. Mmh. Je trouve que ce dialogue est extrêmement intéressant.
Oui, vraiment très.
Comme on veut rester un peu positif, j'espère que son dossier va aboutir positivement.
Apparemment, ça marche pas
mal. À la fin du film. À la fin du film.
Moi, ça laisse les choses en suspens. C'est très bien fait.
Mais j'ai trouvé le film très juste. Hein. C'est vraiment le mot que j'avais quand je suis sorti de la salle. C'est vraiment un film juste où oui, on a tout en fait, toute la vie des personnes migrantes qui passent par le parcours de l'asile.
Surtout qu'en plus, le problème de beaucoup de ces personnes de réfugiés ou ce genre de choses, c'est que la plupart du temps, quand ils viennent en France, on leur demande des preuves concrètes de persécution ou ce genre de trucs, etc. Mmh. Et parfois, quand on est une personne LGBT qui vient d'un pays comme, l'Égypte ou l'Iran, comment dire que fournir des preuves, ça veut dire qu'on s'est exposé de base à devoir se faire exécuter. Donc ça peut être extrêmement compliqué de pouvoir fournir des preuves qu'on est effectivement persécuté en raison de ses convictions politiques ou identitaires ou religieuses ou sociales ou ce que vous voulez. Et du coup, ça complique énormément la tâche de ces personnes pour pouvoir obtenir leurs papiers.
Et alors, si on pouvait émettre une petite critique vis-à-vis du film, c'est que les entretiens OFPRA sont très intrusifs. Par exemple, sur les questions de sexualité, ça peut aller très loin, les questions vraiment où tu dévoiles beaucoup d'intimité.
Mais comment veux-tu ? Ils font tout pour qu'on ne vienne pas. Il faut bien poser des questions qui nous emmerdent. Donc voilà. C'est quoi le titre du film d'ailleurs ? Parce qu'il est toujours au Carme, c'est ça ?
L'histoire
de Souleymane.
C'est au Carme.
Il l'a encore.
Eh bien, on peut aller voir ça. Merci encore une fois, une troisième fois, à vous. Dans la suite des programmes Radio Campus Orléans, du reggae, Raidon pendant 2 heures. À Tours, vous avez les improgrammables. On va terminer cette émission en musique avec un extrait de l'album de Tikenja Fakoli.
African Revolution
en 2015, c'est Racine. Il reprend plein de d'artistes connus du reggae. Notamment là-dessus, il est avec Ken Booth, qui est une star du reggae. Ça s'appelle « Is it because I'm black ?» Je vous pose la question, est-ce que vous m'aimez bien parce que je suis noir?
Alors Hassan, c'est pas moi qu'il faut poser la question.
Oui, c'est vrai.
Fais attention Hassan, je trouve que tu es en France depuis trop longtemps.
Oui, c'est vrai.
Et tu te mets à blanchir.
Tu vas voir le prochain film, l'histoire d'Hassan, sur tous les écrans. Merci encore à vous.
Moi je suis malvoyant, je savais même pas que tu étais noir.
Passez une belle soirée sur Radio Campus Orléans, Radio Campus Tours et à mardi prochain. What can I do? Oh, yeah. Something is holding me back. Holding me back. Is it because I'm black? Yeah. In this world of no pity, I was raised in the ghetto of the city. Mama, she works so hard to earn every penny. Something is holding me back. Holding me back. Is it because I'm black? Is it because I'm black? Yeah. Something is holding me back. Is it because I'm black? Yeah. Tell me, is it because of my color?
his first piece of candy got caught. Wandering round life's corner, somewhere I got lost. Something is holding me back. Is it because I'm black? I want to know, I want to know, yeah. Something is holding me back. People, is it because I'm black? Somebody, please tell me, is it because I'm black? Is it because of my color? Hey.
Yeah. Raiden dans deux minutes. Yeah. Oh.